T'as quel âge, maman?
Je vais avoir 73 ans le 20 juillet 2023.
Et qu'est-ce que ça te fait?
Désormais, c'est parti. Hein. Je suis lancée dans les 70, et puis voilà. Non, non, moi, je me trouve changée vis-à-vis dans le temps. Mais bon, quand t'as 20 ans, c'est vrai que t'es fraîche et tout, mais quand t'as 73 ans, ben, tu es décati. Ouais, puis je pense que quand on a travaillé, tout ça, on fatigue quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Pourquoi pas vieille?
Pourquoi pas vieille? Pourquoi pas?
Pourquoi pas vieille?
Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement en se racontant? Que se passe-t-il quand on vieillit? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui ne se dit pas? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas? Pourquoi pas vieille? Réalisé par Alexia Guignard.
Pourquoi pas vieille? Pourquoi pas vieille? Pourquoi pas vieille?
Toi, qu'est-ce que t'attends d'une émission radio qui s'appelle Pourquoi pas vieille?
Ben, moi, je trouve que l'autre jour que j'ai écouté ton truc, là, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Puis tu vois, dans le fond, c'est ce que je dis à papa, je dis, ça réconforte à moitié. Tu te dis après, oui, pourquoi se poser les dire, je suis moche, dans l'état que je suis, je me regarde partout. Après, quand tu écoutes ça, tu te dis oui, effectivement. Puis en somme, t'es pas la seule comme ça, c'est tout le monde pareil. Hein. T'as des qui sont pas mal, c'est sûr, mais t'en as qui sont pareils que moi, qui sont des Cathy. Hein.
Pour cette deuxième émission Pourquoi pas vieille sur la thématique vieillir et transmettre, j'avais envie de commencer avec la voix de ma mère, avec son regard sur la vieillesse, sur elle-même. Son témoignage montre bien que l'émission Pourquoi pas vieille est un espace de transmission d'expérience qui peut résonner avec nos propres vies. Ce nouvel épisode, autour de la thématique vieillir et transmettre, vous présente une rencontre avec 5 femmes de l'association Pourquoi pas vieille et 3 femmes du collectif Féminité. Féminité, au pluriel, est un spectacle porté par un collectif du même nom, composé de 7 comédiennes improvisatrices qui met en scène leur regard croisé autour des féminités et parle de leur ressenti, du ressenti de ce qu'est être une femme au quotidien. Donc voici les échanges que nous avons eus à partir de petites questions décalées sur la thématique vieillesse et transmission.
Elisabeth, j'ai 68 ans. Je ne sais pas ce que c'est que transmettre. Je n'ai pas réfléchi à ça. Partager, vivre, être là.
Jeanne, 48 ans. Pour moi, transmettre, c'est allumer l'étincelle, le désir, la vie, la flamme, la curiosité, la suite, quoi.
Élise, à 35 ans. Je vais faire simple. Pour moi, transmettre, c'est partager.
Elisabeth, 65 ans. Alors en ce qui me concerne, j'envisage beaucoup plus le thème de la transmission sous l'angle de ce qui m'a été transmis plutôt que personnellement ce que j'ai à transmettre ou ce que j'ai transmis, parce qu'au fond, je ne suis pas très sûre de ce que, au final, j'aurais transmis.
Gabrielle, 37 ans.
Transmettre, ça se passe du côté de la conscience, de moments précieux et parfois d'une transmission inconsciente aussi, d'attitudes et de postures qu'on ne maîtrise pas et qui nous viennent de loin.
Anne, 70 ans. Alors moi, transmettre, je vois transmettre, je me dis c'est passer la main. Mais c'est aussi, comme ce que tu disais, c'est pas enfin, une démarche volontariste, etc. Mais c'est transmettre tout ce qu'on a vécu, notre époque, enfin, en tant que famille, société, tout ce que les femmes ont fait, plus les femmes.
Marie-Vonne, moi j'ai 68 ans. Je ne sais pas, transmettre, c'est, pour moi, c'est recevoir, parce que c'est ce que j'ai reçu de mes parents en particulier, ou de ma grand-mère aussi, parce qu'elle a une place importante dans ma vie. Et puis c'est ce que je donne, ce qui restera sans doute quand un jour je ne serai plus là, avec mes enfants et mes petits-enfants.
Moi c'est Marie, donc j'ai 66 ans. Moi je pensais, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que transmettre c'est donner. Et puis après je me suis dit, en fait c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre, il s'appelle Jean-Claude Michéa, qui parle de ça, c'est que les rapports sociaux, c'est une espèce de trilogie, c'est donner, rendre et recevoir. Effectivement, il faut savoir donner, il faut savoir rendre et il faut savoir recevoir.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils, pour quel jardin? Je n'en sais rien.
Citer un objet de vieux, ou de vieille, du coup. Le Duralex de vin rouge. La première chose que j'ai pensé quand je voyais, c'était un objet de vieux, j'ai d'abord vu une cuisine avec les carrelages blancs 20-20 qu'on voyait partout et le gros évier en céramique blanc qui prend toute la place. Et là, j'ai vu mon grand-père avec son verre de Duralex, avec son verre de rouge de Duralex, sur la table en formica d'une couleur bleue et blanche, un peu damier. Quand j'ai vu vieux, j'ai pensé du coup à mon grand-père et j'ai essayé de me dire... Vieux, vieille, pense à ta grand-mère, mais c'était trop tard, j'avais déjà l'image de mon grand-père. Et si ça avait été ma grand-mère, là je pense que j'aurais vu un petit puits. Elle avait un petit puits qu'on a un peu bataillé avec, entre les petits-enfants pour l'avoir. C'était un petit objet où on pouvait descendre avec une petite manivelle le petit seau dans le puits et on le remontait. Et il était sur le buffet de du salon.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils, pour quel jardin? Je n'en sais rien.
Je pensais tout de suite à ma grand-mère, et ce sont deux objets que moi, j'aurais dû récupérer, mais en fait, je n'ai jamais eu de la place dans les appartements pour les avoir. Le premier, c'est une coiffeuse. Et c'est une coiffeuse dans laquelle il y avait plein de petites boîtes avec des trucs pour mettre de la poudre. Et sous laquelle, enfin, il y avait une glace sous laquelle il y avait plein de vieilles photos de toutes les personnes de sa famille. Et donc, j'aimais beaucoup cette coiffeuse-là et je n'ai pas pu la récupérer. Et l'autre, qui m'évoque beaucoup plus de joie, c'était la grosse boîte à couture, celle qui se déplie complètement et dans laquelle il y avait des... On appelle ça une travailleuse. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Génial, merci. Et là-dedans, il y avait vraiment beaucoup de choses, dont des boîtes avec plein de boutons qui ont été mes premiers jouets, enfin, le premier grand plaisir que j'ai eu à jouer toute seule enfant. Et depuis, j'en ai acheté une qui n'est même pas de bonne qualité, etc. Mais je suis hyper contente d'avoir quelque chose qui, même de loin, ressemble un peu à celle qu'il y avait chez ma grand-mère.
Et pour moi, le truc de vieux, c'est la blouse. J'étais... entourée de femmes, mes tantes, ma mère, qui avaient tout le temps une blouse à la maison.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien.
Mais les blouses aujourd'hui, Elisabeth, oui, quand je bricole, j'ai récupéré les vieilles blouses de ma mère, et quand je fais de la peinture, je m'appelle Marie-Thérèse.
C'est hyper pratique et d'habiller, on a plein
de histoire qui sourira dans son miroir et les habits, je n'en parle pas.
Moi, je vais vous dire la première idée d'objet de vieux auquel j'ai pensé, c'est que quand on est une femme, on a ses règles, on achète des serviettes hygiéniques et puis un jour on est ménopausée, on arrête d'en acheter, puis un jour on recommence à les acheter. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis trash, mais pour moi, ça c'est un objet de vieux.
Moi, je vais enchaîner sur cette question de
l'intimité. Moi, ça me fait penser au bidet. Le bidet, pour moi, c'est quand même l'objet qui me fait le plus penser à chez mes grands-parents et notamment à ma grand-mère. Et je pense que ce bidet a été l'occasion d'une des rares discussions sur l'intimité sexuelle avec ma grand-mère. Ma grand-mère parlait de vraiment tout, hein, mais quand même vraiment la question de la sexualité crue, pas trop. Et je me souviens qu'elle m'avait expliqué à quel point ce bidet était essentiel sur le thème de... Oh, je ne trouve pas le mot. De la contraception. Merci. Et qu'elle utilisait son bidet avec sa poire après chaque rapport sexuel. Et je devais avoir 13 ans. Et j'étais restée là à visualiser du coup ma grand-mère sur son bidet avec sa poire qui venait de s'envoyer en l'air avec mon grand-père. Et ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Mais le fait est que j'ai beaucoup d'affection pour cet objet et qu'à l'heure actuelle, dans ma maison, j'en ai un. Et que je m'en sers énormément pour ma toilette, quoi. Et pas qu'intime, en fait. Je trouve que écologiquement, c'est beaucoup plus adapté, quoi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment connoté ma grand-mère, quoi.
Je vais juste rebondir là-dessus. Et pour venir à la poire, moi, ma grand-mère me l'a donnée. Parce que moi, je me suis mariée en 72. Et ben oui, mais la pilule, moi, j'étais mineure, je n'avais pas le droit de prendre la pilule à ce moment-là. Enfin, bref, c'était majorité à 21 ans. Donc, j'ai la poire dans une boîte en carton. Il y avait la poire à lavement, enfin à injection. Oui, c'est parce que c'était transmission, oui. Et sinon, moi, pour revenir à l'objet de vieux, moi, c'est un truc un peu plus marrant peut-être. Moi, ma grand-mère, ce qui m'étonnait toujours, c'est que ma grand-mère prisait. Parce qu'elle avait, soi-disant, de la sinusite. Et donc, sur sa table de nuit, elle avait son paquet de gris. Elle ne fumait jamais autrement sinon. Hein. Et donc, elle mettait ça comme ça sur le creux de sa main. Puis elle faisait pour déboucher son... Puis après, tu vois, je me mouche, ça vient, ça débouche bien le nez, parce que je souffre de sinusite. Alors je sais pas si c'est un remède efficace, mais elle prisait.
Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.
Je voulais rebondir sur un objet trash pour ce que tu disais tout à l'heure. Ma grand-mère, à moi, elle avait un dentier, elle a eu des gros problèmes de dents et à un moment donné, elle a dû avoir un dentier complet. Et elle en était très très malheureuse. Elle ne s'est jamais réconciliée avec le fait de devoir porter un dentier. Et elle a, à la fin de sa vie, était tellement en colère contre la vieillesse et contre ce dentier qu'elle allait au photomaton, au petit magasin du coin, et elle se prenait en photo avec d'immenses lunettes de soleil et des postures incroyables, dont certaines sans le dentier, avec toute la bouche rentrée comme ça. Et elle nous sortait des séries de photomatons complètement délirantes, où elle était avec toutes ces têtes-là. Enfin, à l'époque, les photomatons pouvaient changer de tête à chaque photo. On avait quatre trucs différents, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, et quand je suis allée, quand à l'annonce de son décès, je suis allée vider sa maison avec mon père qui rentrait de l'étranger pour ça. En fait, j'ai trouvé dans la poubelle de la salle de bain le dentier de ma grand-mère. J'ai jamais su pourquoi il était là. Je me suis dit, soit ça fait des années qu'elle se couche le soir en espérant ne pas se réveiller le matin, et donc elle a mis le dentier à la poubelle et que le matin, c'est là qu'elle allait le récupérer, soit ce soir-là, quand elle s'est couchée, elle savait qu'elle ne se réveillerait pas. Mais ça voulait, enfin, c'était vraiment toute la détestation de ce processus de vieillissement, et ça, c'est mon grand regret de ne pas avoir pu trouver des mots qui pouvaient apaiser en fait cette horreur de vieillir qu'elle a éprouvée. Voilà.
Quelle chanson vous aimeriez transmettre ?
Quand mon petit garçon est né, spontanément, en berceuse, je lui ai chanté « La petite est comme l'eau ». Donc « L'eau vive » de Guy Béard. « La petite est comme l'eau ». Et je ne savais pas d'où ça venait. Enfin, c'était juste un truc qui tombait comme ça. Et c'est ce que j'avais envie de lui chanter pour l'apaiser le soir. Un jour, je suis chez ma grand-mère maternelle. Et je suis donc en train d'essayer d'endormir Charlie. Et je me mets à lui chanter cette chanson. Et là, on est dans la cuisine, comme souvent. Et ma grand-mère s'arrête, me regarde et me dit « Mais d'où tu sors cette chanson ?» Je dis, bah, je sais pas, c'est celle que je lui chante depuis qu'il est né, c'est celle qui me vient. Et elle me dit, mais est-ce que tu sais que c'est la chanson que je chantais toujours à ta mère pour l'endormir quand elle était bébé? Et le fait est que ma mère m'avait entendu plusieurs fois la chantonner et ne me l'avait jamais dit, je pense qu'elle n'en avait même pas conscience. Et voilà, quand on parle de transmission inconsciente, moi j'ai exécuté là... Et cette chanson, mon fils l'adore et la fredonne très souvent maintenant. Il a 10 ans et il la fredonne encore souvent, même le soir quand il s'endort, tout ça, enfin quand il se couche. Et je pense toujours du coup à ma grand-mère.
Alors moi, ça serait, ce qui m'a évoqué tout de suite, c'était « J'aime les gens qui doutent » de Anne Sylvestre. Et j'ai pensé tout de suite, j'ai une mère qui doute et une famille qui doute beaucoup et qui est en prise de ça. Et je trouve que c'est une chanson qui fait tellement du bien quand on est en prise de doute, justement, parce qu'on se rassure à aimer ça et à se dire, c'est pas grave, c'est en nous, c'est comme ça. Ça nous a été transmis, on le transmet autour de nous, mais on transmet autour de nous aussi le fait, c'est bon, c'est cool, tout va bien se passer et doutons ensemble, on va aimer ça.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons.
Je pense à, non pas à la chanson que je vais transmettre, mais à la chanson qui m'a été transmise quand j'étais petite. Et donc j'aime toujours la chanter, c'est... Quand j'étais petite fille, les moutons j'allais garder. J'étais encore dans ma jeunesse, j'oubliais mon déjeuner. J'étais encore dans ma jeunesse, j'oubliais mon déjeuner. Puis la suite, bien sûr, elle est longue. En fait, quand je pense à la chanson à transmettre, je me souviens des cours que nous avions toutes les semaines et qui s'appelaient à l'école. C'était une heure et demie par semaine. Les cours à la radio, le samedi après-midi, tout à fait. Et c'était, comment ça s'appelait la radio scolaire.
Effectivement, on écoutait la radio le samedi après-midi. Moi, j'étais à l'école au Quatre Moulins. Et tous les samedis après-midi, je me rappelle très bien, et je vais même te dire que j'ai toujours les carnets, j'en ai toujours deux à la maison, avec tous ces carnets de... Ouais, des petits, avec les carnets de chansons. Non, c'était pas Spiral, c'était un livret plat, bleu et blanc, et il y a toutes ces chansons-là. Et ça, je me souviens d'une chanson, parce que c'est la que j'ai beaucoup aimée à cette époque-là, parce que c'était une maîtresse que j'avais beaucoup aimée, et c'était... Alors, je chante faux, alors c'est pour ça que les chansons, moi, je transmettrai pas de chansons, c'est sûr, mais c'était une chanson de Malbrook. Si c'était un pauvre air, je ne sais plus comment. Non. Hein, c'est quoi cette. Non, c'est pas Malcolm, ça va en guerre. C'est. On m'a toujours dit. On m'a interdit d'apprendre des chansons à mes enfants parce que je chantais faux et que dans la famille, tout le monde avait une bonne oreille. Sauf
dans la chanson de nos pères, monsieur de Malbrook est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore.
Personne ne chante faux. On a tous une tessiture très particulière. On va être dans tel ou tel pupitre de chant, mais personne ne chante faux. Il faut que ça se le dise.
File la laine, file les jours, garde ma peine.
Ce sera à toi quand je serai morte. De quoi s'agit-il ? Ce sera à toi quand je serai morte. De quoi s'agit-il ? Je ne sais pas.
Alors, ma mère m'a dit la même chose. Ce sera à toi, non pas quand je serai morte, elle n'a pas utilisé ce terme-là, mais ça sera à toi quand je ne serai plus. Et elle avait prévu vraiment que ça me revienne. C'était une montre en or, une montre Gousset, qui avait appartenu à son père. Une très belle montre en or, toute ciselée, toute travaillée, avec de très beaux chiffres romains. Et elle m'avait dit, tu vois, pour que ce soit à toi, je vais te la faire graver à tes initiales. Et donc, elle était allée chez un bijoutier, elle avait choisi la gravure, très belle gravure, etc. Elle m'avait dit, bah, ce sera à toi. Tu sais où sont rangés mes bijoux, donc tu trouveras cette montre en or. Et puis, bah, la vie a fait que, lors de sa succession, cette belle montre ne m'est jamais revenue, bien qu'elle fût gravée à mes initiales.
Tous ces objets qu'on a connus...
Moi, j'ai une autre histoire. Donc, chez mes parents, il y avait beaucoup d'objets. Ils avaient beaucoup d'objets, dont certains étaient fort beaux. Et donc, mon père avait décidé que ça sera à toi quand je serai mort. Et donc, ce qui serait à moi quand il serait mort, c'était donc un service à Porto, Napoléon III, en cristal, le doré à l'orfin. Bref, bon. Il est mort, j'ai pris le service à Porto en cristal et je l'ai mis dans une armoire dans ma cave. Et donc, je veux dire, à chaque fois que j'ouvrais l'armoire dans la cave, je me disais, oh merde, au secours, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Non mais vous riez. C'était mon père qui était dans l'armoire dans la cave. Bah, j'ai fini par le vendre, mais ça m'a pris plusieurs années. Voilà, j'ai fini par le vendre.
Ça me fait penser à justement, ma grand-mère est décédée là en mars. Et du coup, ma mère a beaucoup, beaucoup œuvré ces derniers mois pour vider la maison qui a été vendue dans la foulée. Enfin, tout a été assez vite. Ça me fait penser, finalement, dans la transmission, il y a ce qu'on veut, il y a ce qui est noble, mais il y a aussi des trucs dont on ne veut pas, quoi. Et enfin, tu vois ce que tu racontes sur ton papa dans le placard. Enfin, par exemple, c'est... Non, mais c'est tellement fort symboliquement. On voit bien la charge que ça a. Et que finalement, on a voilà, les transmissions matérielles, mais aussi les transmissions, bien sûr, symboliques. Est-ce qu'on a toujours le choix, finalement, de les accepter ou pas, ou de les refuser ? Est-ce que finalement, on se sent un peu forcé quand même, surtout quand on est sous le coup d'un décès ? Et puis, moi, par exemple, mes parents, ils m'ont jamais dit... ça ce sera à toi quand je serai mort ou morte, parce qu'ils sont aussi dans une sorte d'hyper vigilance tout le temps à l'équité. On est quatre enfants et moi je sens plutôt du côté d'un blocage, en fait, d'un blocage de la transmission et d'un truc de se dire les enfants se débrouilleront bien et on leur fait confiance pour ça, mais du coup on n'anticipe pas et on n'ose pas dire ça précisément. Je trouverai juste et j'aurai le désir que ça se revienne à toi. Et des fois, ça m'interpelle et ça peut me déranger aussi.
Alors, tandis que moi, ma grand-mère, elle a donné des objets à moi, beaucoup, de son vivant. Donc, justement, parce que je pense qu'elle devait anticiper tout ce genre de choses, et les objets que j'aimais chez elle. Donc, il y avait, je me souviens, quand j'étais petite, elle avait sur son buffet, alors c'était tous ces personnages bretons, tu avais Pérénique et Colaïque. C'est les trucs Oriot, là. Et donc, c'était comme de petites poupées. Ça me fascinait, mais elle ne voulait pas que je les touche parce que j'avais cassé. Donc, un jour, mais j'avais 35 ans, elle m'a dit, tu les prends. Donc, après, elle m'a donné son collier en ivoire, tu sais, le bracelet, les chaises. C'est les chaises un peu en pire. Parce que quand j'allais chez elle, il y avait des ressorts dessous et je voulais toujours être sur cette chaise-là parce que je pouvais sauter. Bon, j'avais peut-être 30 ou 35 ans. Elle m'a dit, prends les deux chaises. Voilà, donc elle a donné des objets, les objets que moi je trouvais, que j'aimais bien chez elle. Voilà.
Dans ma famille, c'est très compliqué, ça. C'est très, très compliqué, les partages, les successions, les héritages. C'est lourd, moi je trouve que c'est lourd. Et ça l'est encore. Alors maintenant, moi j'ai deux filles. Comment vais-je traiter ça? Je ne me suis pas encore posé la question.
Je peux intervenir ici parce que je suis dans une famille très très décomposée avec plusieurs mariages mais plein de divorces et à la fin donc les personnes qui finissent par vivre seules et mourir seules. Et en l'occurrence mon père a décédé pendant le Covid. Et le moment où le moment où il a fallu faire tout ça, vider la maison. Et ça a été un moment qui, contrairement à ce que vous avez décrit là, dans des moments de succession difficiles, c'est des moments qui m'ont aidé beaucoup à construire la cohésion très très forte entre nous. Alors, mon père nous avait déjà pris des dispositions pour ses obsèques, il m'avait fait subir à deux reprises un inventaire. On avait fait le tour de la maison à pied, de regarder toutes les choses. Il n'avait pas vraiment dit à qui il voulait donner quoi, par deux, trois trucs à des amis. Enfin, mais c'était des trucs qui étaient vraiment très symboliques. Et pour le reste, il a bien fallu qu'on se débrouille. Et ce qu'on a fait, il y a beaucoup de force dans la relation que j'ai avec mon frère avec qui on a géré ça, qui s'est créé à ce moment-là parce qu'il a fallu qu'on se débrouille. Et pourtant, c'était des circonstances qui étaient vachement compliquées. Mais ça peut aussi être des moments de réconciliation. En fait, c'était ça que je voulais dire. Voilà.
C'était Pourquoi pas vieille, réalisé par Alexia Guignard. Ce deuxième épisode sur la thématique vieillesse et transmission s'est construit à partir d'échanges sur les objets transmis à transmettre. Autour de ces bidets, dentiers, blouses et autres poires à lavement, nous sont livrées des histoires de vie, des affects, des usages sociaux, autrement dit des transmissions symboliques, culturelles et immatérielles. Merci aux femmes qui ont participé à cet atelier radio. Merci aux deux Elisabeth, à Jeanne, Élise, Gabrielle, Anne, Marie-Vonne et Marie-Sophie. Notre prochain épisode portera sur une transmission plus spécifique, celle des luttes et des engagements féministes.